18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, qui dit vendredi, eh bien, on vous accompagne, enfin, on tente de vous accompagner de façon un peu léger. Mais bon, en tout cas, beaucoup d'entre vous vont se retrouver un week-end parfois pluvieux, mais c'est comme ça. Ceux du Sud vont vivre un peu moins de pluie. Alors, au sommaire, je vous embarque de 18h jusqu'à 19h30, votre émission, où on commente, analyse et on décrypte l'actualité, chers amis. Alors au sommaire, au menu de cette émission, d'abord l'interview Algérienne en France, l'héritage, un documentaire qui sera diffusé sur France 2. Tout à l'heure, nous accueillerons eh bien, tout simplement sa réalisatrice, la réalisatrice qui a donc pas mal évidemment réalisé, produit des films, et elle sera avec nous tout à l'heure en direct dans Les Informés, ici même. Et puis on parlera, vous savez, du Quoi de Neuf, le Quoi de Neuf avec Michel Taube. Il reviendra sur la CGT, sur son mouvement qui se durcit. Puisque le mouvement, vous le savez, il a été reconduit. Et puis le face-à-face. Ah, que c'est beau. Des gens de gauche, des gens de droite, des gens tout court vont confronter leur point de vue. Et bien, nous aurons Maître David Limeskine, comme d'habitude, vous le savez, comme chaque vendredi. Face à lui, eh bien, Rafik Temgari, un élu de Royal Malmaison, mais également aussi Melad Ouchenir, qui sera avec nous, qui est consultant numérique, un ancien élu de la ville de Bombigny. Voilà le programme. Mais alors, sans oublier, chers amis, partout en France, vous êtes de plus en plus nombreux. Grave. Et je vous en remercie infiniment. Au 01 53 48 3000, je poserai une question tout à l'heure. C'est la pénurie du carburant. J'ai envie de savoir finalement, vous vous rangez de quel bord? Est-ce que véritablement vous soutenez les syndicats, les grévistes? Est-ce que c'est mitigé? Est-ce que c'est 50-50, 50-50? Vous êtes d'accord avec eux, mais pas condition qu'on nous prenne en otage? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure ensemble. Les Informés, c'est tout de suite. C'est maintenant. Et vous le savez. Beurre FM. Liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Si pour l'interview du jour.
Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Bouchra Azouz, militante féministe. Elle est réalisatrice, essayiste. Elle est même d'ailleurs, vous savez quoi? Elle vient de Bobigny, puisque j'ai parlé de Bobigny. Ma chère Bouchra Azouz, quel plaisir de vous accueillir.
Eh ben merci beaucoup. J'espère que vous allez m'entendre sans trop d'interruptions, parce que je suis dans ma voiture et je passe sous des pylônes électriques.
Ben pour le moment, ça va, on vous entend
pour
très bien.
Ça va.
Alors, vous avez réalisé toute une série de films, hein, de documentaires qui ont été diffusés dans les médias, sur les chaînes de télévision justement. Et Bouchra Azouz, vous revenez avec un documentaire. Ça va être diffusé début novembre. Précisément, c'est 2 novembre, non?
C'est le 2 novembre sur France 2 à 22h45.
Ça Alors parlons-en. Algérienne en France, l'héritage. Alors me semble-t-il, c'est 4 femmes, 4 portraits croisés, qui ont grandi en France et qui cherchent quoi au juste? Qu'est-ce que vous décidez de raconter, Bouchra Azouz?
Bah, comme dans tous mes films, en fait, je propose une chose qui est assez simple. C'est une relecture de l'histoire, mais au féminin pluriel. Voilà. Donc, c'est toujours des portraits croisés que je fais de femmes qui ont vécu une période de l'histoire et qui nous racontent ces événements, mais de leur point de vue, c'est-à-dire comment ces événements, elles ont percuté leur vie, qu'est-ce que ça a créé chez elles et quelles femmes elles sont aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça me paraissait important pour les 60 ans d'indépendance de l'Algérie de proposer un film qui donnait la parole aux femmes.
C'est un film résolument tourné vers, évidemment, cette France d'aujourd'hui, mais surtout avec une note d'optimisme tout de même. Parlons-en, Bouchra Azouz. Cette note d'optimisme, elle se veut quoi?
Une note d'optimisme dans le sens où, on connaît tous le point de départ de cette histoire traumatique qui pèse encore très lourd dans la société française. Mais en même temps optimiste parce que le point de chute de chacune de ces femmes, c'est leur vie telle qu'elles les ont construites, telle qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est des femmes qui sont porteuses de principes qui sont des principes universels. Le principe d'égalité, c'est pour ça que leurs parents se sont battus ou qu'elles-mêmes se sont battues pour l'indépendance. Et l'indépendance, c'était un principe de liberté, un principe de dignité, un principe de fraternité aussi. c'est comment, dans l'altérité, on peut vivre ensemble sans qu'il y en ait un qui domine l'autre.
Donc, c'est voilà, aussi, Bouchra Azouz, c'est le portrait de ces quatre femmes qui nous plongent, hein, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, au cœur de, y compris l'histoire franco-algérienne.
Ah oui, mais complètement, parce qu'en plus, bon, j'ai pris le parti, moi, de raconter des femmes depuis la France, depuis nos quartiers populaires, puisque c'est aussi un peu ma marque de fabrique. Et effectivement, oui, c'est notre histoire qui s'est construite ici, avec la doyenne des quatre, qui est Jamila, qui a 88 ans, qui est une femme incroyable, qui a été une militante du FLN en France, qui a transporté des armes, enfin qui a une épopée comme ça en plein cœur du conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette jeune femme qui est mariée à 16 ans, eh bien au travers aussi de cette libération d'Algérie, elle va se libérer elle aussi en tant que femme. Et voilà, c'est ça aussi cette histoire d'Algérienne en France, l'héritage. Elle nous laisse leur lutte en héritage, chacune à sa façon. Jamila, qui s'est battue aussi pour l'indépendance de son pays, mais pour son indépendance à elle. Fadila, qui s'est battue...
Et Jamila, jeune mariée d'ailleurs, de 16 ans.
Oui, c'est ce que je disais. Elle a été mariée à 16 ans et c'est à cet âge-là qu'elle part pour la première fois en Algérie pour rencontrer sa belle famille. Et là, elle se percute à une Algérie colonisée où elle voit des injustices. Et comme elle dit, quand elle revient en France, elle revient pas chargée de haine, mais elle revient avec cette idée que c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut faire quelque chose, et peu de temps après, le conflit va éclater et elle va y prendre part.
Oui, et c'est aussi Samia, vous disiez, et je vous ai freiné dans votre foulée, Samia et également Dalila.
Oui, Samia qui va apprendre la lutte des classes aux côtés de son papa ouvrier, mais qui va aussi apprendre, comme je le disais, ces valeurs universelles d'égalité, de justice, parce que c'était de cela qu'il s'agissait dans cette Algérie colonisée. C'était la question de la justice, c'était la question de cette inégalité. Donc elle va apprendre tout ça, mais elle va apprendre pour en faire quelque chose dans ce lutte, elle, de jeune fille issue d'immigration, née en France, et qui va, dans les années 80, se battre aussi contre le racisme, et surtout s'engager dans la voie féministe, parce que pour elle, c'était la lutte majeure.
L'héritage, c'est pour ça que vous l'avez appelé héritage. L'héritage aussi passe par les femmes, vous pensez, vous avez le sentiment que c'est aussi ça, Bouchra Azouz?
Ah oui, je pense que l'héritage, alors d'abord, l'histoire, elle se raconte au masculin, et elle se raconte par le prisme du vainqueur. Donc c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Et les femmes, elles sont passées complètement à la trappe de l'histoire. Et quand vous regardez, finalement, de nos mères, nos daronnes, on nous appelait Beurette, meuf de cité, et aujourd'hui algérienne en France, l'héritage, eh bien, je pose d'une manière assez forte le fait que les femmes ont aussi leur histoire à raconter et qu'elles ont construit quelque chose de spécifique dans la société française et que ça mérite peut-être d'être un peu plus valorisé.
Bouchra Azouz, on vous connaît. On sait que votre écriture est toujours une écriture d'identité, une écriture d'intégration, une écriture de lutte, justement. C'est toujours un parti pris, vous, concernant vous, réalisatrice?
Oui, bien sûr, mais en réalité, je suis d'abord une citoyenne qui s'interroge sur l'état de la société dans laquelle elle a toujours vécu. Et finalement, proposer ce film, c'est proposer aussi mon regard de l'intérieur. Moi, j'ai vécu les quartiers, j'ai vécu l'immigration et cette immigration postcoloniale, puisque j'appartiens à cette génération des années 80. Et en fait, c'est d'abord ce désir de raconter de l'intérieur et de raconter par ce regard féminin qui va raconter une autre histoire que une histoire de conflit, de délinquance, de je ne sais quoi. Finalement, ce que je raconte et qui concerne finalement, qui nous concerne tous, c'est de dire que cette immigration, elle a confronté la République à ses idéaux et donc elle a permis de s'interroger et d'aller plus loin. Et nous avons été, nous, porteurs de luttes dont bénéficient aujourd'hui nos enfants ou nos petits-enfants. Et ça, c'est important aussi de le dire. Allô ?
Oui, j'ai eu juste un souci de micro. Pardonnez-moi, c'est le live. Dites-moi, Bouchra Azouz, le France Télévisions a accepté tout de suite la diffusion de votre documentaire ?
Ah oui, oui, alors c'est peut-être celui que j'ai eu le moins de mal à signer, j'ai envie de dire. Ça a été très vite. France Télé, je leur ai livré le film en juillet. Et en septembre, j'avais une réunion pour me dire « Mais formidable, on veut absolument faire ce film ». Donc je pense, oui, qu'il y a un vrai désir de raconter l'histoire. Et encore une fois, hein, l'histoire, elle est brute, elle est brutale, elle est là. Mais en même temps, je pense que collectivement, ce film permet aussi d'ouvrir des perspectives. Et ce que je dis souvent, c'est que le point de vue féminin, il ne dénature pas l'histoire. Elle est là, mais ce qui change, c'est la perspective. Et ça change tout, je crois, dans la société. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire ensemble, de se dire qu'on est capable ensemble, collectivement, de dépasser les traumas de l'histoire et de construire l'avenir. Parce que c'est le seul qu'on peut, qui est entre nos mains. Le passé, il n'est pas entre nos mains. Mais l'avenir est entre nos mains.
Dites-moi, Bouchra Azouz, vous dites justement l'avenir est entre nos mains. Vous parlez des 60 ans, justement. Et puis, France Télévisions, qui joue le jeu. Qu'est-ce que vous attendez du public ? Qu'est-ce que vous attendez notamment de celles et ceux qui s'attendent à ce documentaire ? Vous leur dites quoi, par exemple, ceux qui nous écoutent aujourd'hui partout en France ?
Bah, d'abord, je leur dis de le regarder massivement parce que l'audimat, entre guillemets, c'est important, même si sur le documentaire, bien sûr, il n'y a pas de répercussions. Mais je pense que c'est important de montrer qu'on est intéressé par nos histoires. Et il faut que le public soit au rendez-vous parce que c'est aussi ça qui nous donne force à nous, réalisateurs, de continuer à proposer des regards différents et d'enrichir aussi et de permettre aussi la transformation de nos imaginaires.
Je sais que vous prévoyez une avant-première, justement. C'est la presse, c'est qui ? C'est justement des personnalités qui viennent découvrir ce film aussi ? Qu'est-ce que vous voulez sensibiliser ? Vous voulez sensibiliser qui ? Et vous voulez sensibiliser pour qui, en direction de qui, justement ?
Bah, d'abord, une avant-première, c'est une façon aussi de remercier les quatre protagonistes qui ont accepté de témoigner dans ce film. Et je n'ai pas cité Dalila, qui est fille de Harki, qui est cette formidable romancière qui a écrit « Mon père, ce Harki », que je vous invite à lire, parce que c'est aussi un livre qui permet de regarder cette histoire différemment. Et donc, c'est d'abord leur rendre honneur, les remercier. C'est aussi inviter, bien entendu, la presse, l'équipe qui a permis de fabriquer ce film, parce qu'on ne fait pas un film tout seul, d'avoir aussi France Télévisions à nos côtés, et surtout d'avoir ces têtes de pont, j'ai envie de dire, de toutes ces personnes qui fabriquent au quotidien le lien social, la cohésion sociale dans nos quartiers populaires.
J'ai envie de vous dire, Bouchra Azouz. Oui, j'ai envie de vous dire, franchement, je lui souhaite beaucoup de succès et beaucoup d'audience, justement, mercredi 2 novembre à 22h45. Mais d'ici là, vous savez quoi ? On le rappellera. On le rappellera. Justement, le 17 octobre. Oui, bien sûr, allez-y, Bouchra Azouz.
Par rapport à la projection, je pense aussi que c'est important qu'on ait des politiques. Je pensais à la ministre de la Culture, je pense à la ministre de l'égalité femmes-hommes. Je pense qu'il y a des ministères comme ça qui sont importants et qui doivent aussi témoigner de leur soutien à ce type de film. Voilà, c'est un signal fort et je le dis parce que j'ai pas encore de réponse de certains ministères et je pense que c'est important d'honorer la mémoire de toutes ces femmes, de toutes ces Algériennes en France, dont nous sommes les héritières.
Merci infiniment. Merci, ma chère Bouchra Azouz. Vous êtes réalisatrice, militante féministe. Vous êtes aussi essayiste. On connaît vos films. Et là, notamment, un film à ne pas manquer, un documentaire à ne pas manquer. Ça s'appelle Algérienne en France, l'héritage, diffusé le 2 novembre à 22h45. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup et bravo pour votre documentaire.
Merci, Adil. Et merci à tous vos auditeurs. Merci. Vous êtes fidèles.
Merci, on va marquer la première pause et on retrouve tout de suite après, justement pour parler de pénurie. Est-ce que vous soutenez les grévistes ? Vous les soutenez ou pas ? Est-ce que vous les soutenez à 50-50 ? Est-ce que vous considérez qu'il y a une prise d'otage ? Bref, parlons-en. 01 53 48 3000, à tout de suite, juste après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les 18h24 précisément, si vous venez de nous retrouver, sachez-le. Jingle, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et à 18h30, précise, on retrouve Michel Taube, justement, et son édito consacré à la CGT. Ça va cogner dur, je peux vous le dire. Les Michel Taube, rappelons-le, qui est le fondateur d'un média en ligne qui s'appelle Opinion Internationale. Alors, chers amis auditeurs, vous qui nous écoutez partout en France, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie infiniment. Vous savez que c'est encourageant, et même, voilà, ça nous donne envie de... Bon, bref, on se calme, chers amis. Alors, tiens, j'ai envie de vous solliciter au 0153 48 3000 parce que il y a une question qui me taraude. Il y a la pénurie, il y a la galère qui se poursuit, il y a maintenant la colère chez beaucoup. Et puis, je vous sollicite parce que j'ai envie de connaître votre point de vue. Vous vous rangez dans quel camp finalement ? Les grévistes ? L'exécutif ? Je doute, franchement. Mais si c'est les grévistes, est-ce que vous les soutenez à 100% ? Est-ce que vous les soutenez à 50-50 ou est-ce que vous considérez que on est d'accord avec eux, mais en même temps, ils nous prennent en otage? Alors, 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite. Le standard, appelez nombreux, comme chaque soir d'ailleurs. Je vous attends pour écouter, nous livrer votre point de vue, nous livrer votre commentaire. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite. Le standard est ouvert. Quand on parle de pénurie, est-ce que vous soutenez les grévistes? On en arrive quand même à 23e, 24e jour de grève. Est-ce que vous les soutenez? Et puis, je vous sollicite aussi également pour nous dire, c'est votre espace évidemment de liberté d'expression, est-ce que vous arrivez à trouver de l'essence? Est-ce que vous arrivez à dénicher encore ce précieux essence, carburant, justement? 01 53 48 3000, est-ce que vous comprenez et vous les soutenez, les grévistes? Je vous attends tout de suite, je ne bouge pas. Je vous attends au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert, chers amis. En attendant, je vais accueillir nos débatteurs influenceurs. C'est parti, Maître David Libeskind, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va, bon, à part mon téléphone portable qui est décédé aujourd'hui. Donc, voilà, ça arrive. Hein.
Il est décédé.
Bon. Et ouais.
On va consacrer une émission spéciale?
Non, je crois pas, non. Je pense pas que ça a beaucoup d'intérêt pour ceux qui nous écoutent.
Ça dépend, c'était quoi? C'était un super un téléphone high-tech?
Ah non, moi j'ai jamais des iPhones, j'ai toujours des Samsung.
Ouais.
Je suis très fidèle, voilà, j'ai pas besoin d'un...
Vive les iPhones.
Ouais. À vos côtés, c'est Ménad Ouchenir. Bonjour, ancien élu de Bobigny, mais également consultant numérique. Mon cher Ménad, bonjour.
Bonjour Azil, mais alors vous m'avez transféré de Rosny-sous-Bois à Bobigny.
Ah oui, Rosny-sous-Bois. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai présenté. J'ai dit Bobigny. Hein.
Écoutez, ouais. Charmante ville au demeurant, mais
Rosny-sous-Bois.
Mon cœur est à Rosny-sous-Bois.
C'est ça, Rosny-sous-Bois, absolument. Face à vous, eh bien, vous avez un capitaliste. Non, je rigole.
Oui, tu vois. Si, et j'assume. Oh.
Hein. Il assume complètement.
J'assume. Un libéraliste, plutôt.
Exactement.
Voilà, oui.
C'est pareil. Hein.
Ouais, ça revient au même.
Oui, exactement.
Donc, bonsoir Adil, bonsoir à vos éditeurs.
Comment
et c'est toujours un plaisir de venir ici. Et surtout, c'est top parce qu'auparavant, c'était
Monsieur
une
Tengari,
heure...
Rafik.
Avant, c'était 1h30 pour arriver de Rueil-Malmaison ici. Et maintenant, avec cette crise des carburants, bah, c'est un peu moins d'une heure. Donc,
vous avez savouré.
C'est très, très
vous l'avez dit Paris, tellement. Tiens, on aurait dit que le mec, il a savouré. Tu sais que les mecs, il s'est dit. Non, c'est pas possible.
On a dit un peu de légèreté pendant
on
le week-end.
On voulait pas
vous
dire, c'est nous, on a. Là.
C'est bien, pas
il
mal de légèreté.
Particulièrement souriant ce soir.
On va voir s'il maintient son sourire. 0153 48 3000, tout de suite. Allez, c'est parti. Nous accueillons Aziz. Aziz du 92. Mais quelle ville du 92, mon cher Aziz, bonsoir.
Bonsoir, c'est Aaron Premier dans le 92.
Bon, bienvenue à vous. Vous êtes dans, vous êtes quoi, professeur? Vous êtes dans l'éducation nationale?
Dans l'administratif.
L'administratif, allez, bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez face, évidemment, à ces grévistes?
À ces grévistes, moi, je soutiens à 100%, parce que tout est lié à cette inflation où les salaires ne sont jamais touchés, ne sont jamais augmentés, mais les autres produits sont augmentés chaque jour.
Oui.
Donc moi, je suis d'accord avec ces grèves, parce que s'il n'y a pas une pression, il n'y aura pas de droits.
C'est vrai, c'est
pas faux. Le droit, il s'arrache. Il peut pas être donné comme ça sans bouger.
Oui. Oui. Mais vous les soutenez. Attendez, c'est important ce que vous dites. Vous les soutenez à 100%, Aziz?
Oui.
Oui?
Oui.
Ah, parce que certains, hier par exemple, j'ai eu des auditeurs qui disaient, ouais mais bon, très bien, on vous soutient, mais ne nous prenez pas en otage.
Prendre en otage, c'est pas une prise en otage. Je pense qu'il faut s'unir pour avoir les droits.
Ouais.
Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève, qui va y aller dans la rue et qui va demander ses droits, il ne les aura jamais.
Oui. Si vous voyez les choses comme ça, oui.
Comme on dit déjà, la liberté, elle s'arrache. Elle n'est pas donnée comme ça rapidement, sans rien faire.
Oui.
Donc, voilà, moi, je les soutiens. Ils ne me tiennent pas en otage. J'ai galéré pour avoir 20 € d'essence parce qu'ils ont, dans une pompe, ils ont limité à 20 €.
Un plafond, 20 €. Chez vous, c'est à 20 €.
Oui. Donc, mais malgré ça...
20 euros, qu'est-ce que vous faites, 20 € d'essence?
Rien, pas grand-chose. Rien, vous allez faire une course ou bien vous allez aller au travail, ça y est, c'est fini.
C'est fini, c'est ça.
Ouais.
Bon, mais écoutez, merci Aziz d'être intervenu.
Donc moi, je suis d'accord avec les grévistes.
Bon, j'ai bien compris, vous les soutenez. Ça, c'est sûr.
Ah oui,
01 53 48 3000, est-ce que les autres auditeurs, merci, vous les soutenez? Merci Aziz, bon courage. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous considérez que votre point de vue, c'est plutôt 50-50? C'est-à-dire que c'est assez mitigé. À la fois, vous les soutenez et à la fois, vous êtes, il n'est pas question de prendre en otage, évidemment, la population. Qu'est-ce que vous en pensez? 01 53 48 3000, je vous attends. Le standard reste ouvert. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Que le temps file, c'est impressionnant. Le quoi de neuf, c'est avec Michel Taube. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir mon cher Adil et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Oui, merci Michel Taube d'être avec nous. Vous êtes, vous, celui qu'on retrouve chaque vendredi justement pour nous faire un édito, un billet d'humeur. Et vous avez décidé de nous consacrer votre billet d'humeur, eh bien, à la CGT.
Alors, à la CGT, un petit peu aussi à Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a pris un risque politique majeur en disant que d'ici une semaine, les choses seraient rentrées dans l'ordre. Je ne pense pas que c'est, ne serait-ce qu'en termes d'intendance possible à si brève échéance. Et je pense qu'il s'est fortement avancé. Mais ceci dit, moi, j'aimerais effectivement parler de la CGT. Je pense que je respecte le droit de grève, je suis pour le droit de grève, mais je suis contre la prise d'otage des Français par des grèves qui sont excessives. En Italie, les transporteurs routiers, que ce soit les trains, les bus, ne peuvent pas faire grève pendant le week-end de Pâques, pendant les fêtes de Noël, pendant les départs et les retours de vacances. Et je pense que dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, avec l'inflation, avec une situation, encore une fois, sociale qui est très, très difficile, voir des salariés d'une compagnie qui sont des salariés parmi les mieux payés, toutes choses égales par ailleurs, pour le travail qu'ils font en France, bloquer le pays, je pense que c'est totalement excessif. Et ce que je veux dire, c'est que la raison fondamentale pour laquelle la CGT est aujourd'hui aussi vindicative, c'est parce que il y a un agenda politique interne à la CGT.
Oui.
Martinez va quitter la tête de la CGT très bientôt, et il y a des luttes intestines extrêmement fortes pour savoir est-ce que la CGT doit continuer à aller vers une organisation syndicale très très à gauche, jusqu'au boutiste, extrêmement radicale, ou est-ce qu'elle doit essayer de se recentrer un peu plus, comme le fait par exemple la CFDT. La CGT aujourd'hui en perte de vitesse dans les organisations représentatives des salariés. Et donc il y a un enjeu de pouvoir interne à la CGT qui fait qu'aujourd'hui les jusqu'au boutistes sont en train de prendre le pouvoir. Et il y a un deuxième problème, c'est que la CGT est en train de préparer le terrain à ce que organise dimanche Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, à savoir une grande marche sur Paris. Ils ont affrété des bus de toute la France. Et en fait, la CGT sert à faire en fait la soudure avec la contestation politique. Bref, ils préparent la troisième mi-temps de l'élection présidentielle, première mi-temps, des élections législatives, deuxième mi-temps. Et là, maintenant, on est dans la troisième mi-temps, à savoir, pour eux, essayer de déclencher une colère sociale qui amènerait, comme lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes, comme lorsqu'il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, mettrait de nouveau la France dans la rue. C'est ça l'enjeu de ce qui se passe bien au-delà des enjeux de rémunération des salariés de Total, parce qu'encore une fois, même s'ils ont raison de demander une augmentation de salaire, comme tous les Français, vu l'hyperinflation que nous subissons tous, ma foi, je trouve que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que il y a en fait des luttes intestines à la CGT qui font que la France est prise en otage aujourd'hui.
Merci pour ce billet d'humeur qui va certainement faire réagir puisqu'on est en train de parler justement des grévistes, des syndicats, où j'invite les auditeurs à venir réagir au 01 53 48 3000. Merci Michel Thau, vous êtes le patron d'Opinion Internationale. Peux vous souhaiter un bon week-end, mon cher ami.
Et bon week-end à vous aussi.
Merci infiniment. À vendredi prochain, sans faute, avec autant de plaisir. Tiens, je vais accueillir Nassima. Nassima nous appelle de Valenciennes. Bonjour Nassima.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, quel enthousiasme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Nassima?
Je travaille dans la logistique.
Logistique. Welcome, bienvenue. On vous écoute alors. Vous vous placez où par rapport aux grévistes? Comment?
Moi, je suis avec eux. Je suis pour ces grévistes. La vie, effectivement, elle est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Et je pense que Total amasse assez d'argent. Je pense qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en place et en bonne place.
Oui.
Je suis pas du tout, je suis nulle en politique, je suis nulle dans pas mal de choses, mais là, moi, à partir du moment où on parle d'argent, de pouvoir d'achat, du bien-être du français, parce que ça passe par là aussi, à un moment donné, on remet les choses en place. Ben, écoutez, Total a énormément d'argent, on peut augmenter ses salariés sans pour autant aller au bout de la grève. Enfin, je comprends pas, moi, je ne comprends pas l'État qui n'a pas réagi de suite, qui a été concentré plus pour la réforme des retraites, qui, à mon sens, c'est pas ce qu'il faut faire en priorité. Je pense que le français, les gens en colère et fatigués, on a subi le Covid, on a subi pas mal de grèves, on subit encore aujourd'hui, donc voilà, moi c'est un coup de gueule, moi je suis avec eux. Oui, c'est un petit peu embêtant, je conçois, il y a beaucoup de choses, on doit galérer, on doit aller chercher du gazole, c'est cher. Aujourd'hui, ça devient cher pour tout le monde.
Les prix flambent.
Mais il faut aller, quoi. On dort, en fait. La France dort aujourd'hui. Je sais pas, la France dort. Donc, moi, je suis pour les grévistes. Quoi qu'il en coûte, comme dirait monsieur Macron.
Je vois que les auditeurs soutiennent pleinement, en tout cas les grévistes. Continuez à nous appeler au 0153. Merci Nassima et bon courage à vous.
Merci
à vous du côté de Valenciennes. 0153 48 3000. Continuez de nous appeler. Est-ce que vous soutenez les grévistes? Ou tout au contraire, vous, parmi vous les auditeurs, certains peut-être ne les soutiennent pas ou les soutiennent à moitié. C'est-à-dire que vous considérez que vous les comprenez, mais en même temps, ils doivent vous comprendre aussi parce que vous avez votre quotidien. 0153 48 3000, on vous attend. Le standard reste ouvert. À tout de suite, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h42, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, est-ce que vous soutenez les grévistes? Est-ce que vous les comprenez? Ça, c'est la question qu'on pose. Venez justement en parler avec nous, 01 53 48 3000. Mais également aussi, le face-à-face, c'est tout de suite ce matin, en attendant vos appels. Ah, je crois que si, je vais accueillir Fatima de Paris, tiens. Fatima, ma chère Fatima, bonjour, bonsoir. Oui.
Bonsoir, Habibi, ça va?
Oh, Habibi, c'est beau,
je
ça,
m'entends.
C'est beau.
Je m'entends.
C'est beau, c'est beau, c'est beau.
Je m'entends.
Bah oui, c'est que vous avez votre radio.
Il y a un écho.
Il y a un écho, c'est la radio, non? C'est pas la radio?
Le haut-parleur,
non,
peut-être.
Non, bon,
non,
alors, peut-être, non. Là, alors, peut-être c'est ici.
Ça y est, maintenant, ça va, c'est parti.
Il faut le baisser légèrement. Voilà. Alors, on vous écoute, Adil. Monsieur Fatima. Montez un peu.
Ah, bon, bonsoir à toi et à tes invités.
Oui.
Je voudrais d'abord... pour dire je le suis pour ou pas,
oui.
Comment se faire entendre à part avec la grève? Est-ce qu'il y a une autre solution?
Oui.
Il y en a pas. Je vois M. Todd qui n'est pas pour la grève.
Oui.
Est-ce qu'il sait combien coûte un loyer de studio mensuel?
Oui.
Un SMIG? Est-ce qu'il va faire ses courses dans un supermarché? Comment ça a augmenté? Ils disent à 3 ou 20%? C'est plus de 50%. Hein?
Oui.
Donc,
comment
ne pas se faire entendre?
Oui.
Justement, Madame Aurore Berger, ce matin, je l'ai écoutée sur une radio, elle parlait de... Ben, il y a maintenant les robes blanches, ils veulent étouffer ces contestations, avec, comme toujours, avec l'islam. Ça n'a rien à voir. Une robe blanche, c'est pas une abeille. Et si quelqu'un va avec l'abeille, elle n'a pas la tête recouverte. Donc, arrêtez de nous bassiner avec ça. Moi, j'ai voté Macron. Mais maintenant, je me mords les doigts. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est la seule qui reste à faire, c'est Marine Le Pen. Puisque autant prendre l'original,
autant
prendre les copies. Non, mais comment... Écoute, Adil, je sais que je ne le ferai pas, mais par mes interventions, je pense que tu as appris à me connaître. Mais Adil, maintenant, on est en train de... Les copies dépassent les originaux. Tous les matins, les copies dépassent les originaux. On n'entend plus Marine parler de islam, de ceci, de cela. Ça y est, elle les laisse parler à sa place maintenant. Voilà, de la maîtresse là qui parle de... C'est devenu une liberté d'expression, parler de Mahomet. C'est une liberté d'expression, des caricatures de Mahomet, c'est une liberté d'expression. Mais on va où là? On est français, on est là, on bouge pas. Donc, c'est pas la peine de vous casser la tête.
Bon, mais merci Fatima pour votre intervention. Je vous embrasse. Bon week-end à vous. 0153 48 3000, continuez de nous appeler. Le jingle, le face-à-face, c'est parti, 18h45.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face est avec Rafik Temgari, qui est un élu de Rueil-Malmaison, mais également dans l'homme de la finance. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous dites bonjour, vous?
Non, l'homme de la finance. Non, je dis pas bonjour, mais c'est l'homme de la finance, ça m'a.
Ah, j'aime bien quand même.
Bah, oui, qu'est-ce qu'il y a, c'est...
On gère quelques millions d'euros, donc ça va. Ça fait partie.
Celui qui incarne justement le volet juridique, il est là, il ne bouge pas, toujours même micro, même siège. Non mais sérieux, il négocie même parfois avec les débatteurs. Non, c'est ma place.
Je veux ma place.
Tu bouges de là.
Il faudrait prendre une photo sur le réseau social.
Il arrive, vous savez, il a ses petites habitudes. Je vous jure, il y a des débatteurs, c'est fou ici. Hein. Ils ont leurs habitudes. Moi, je balance tout aux auditeurs. Ils ont leurs petites habitudes. Ouais, je vais. Ils ont leurs petites habitudes.
Ceux qui ramènent.
Je vous jure. Non mais maître David Libeskind, si vous le changez de place, il est déstabilisé.
C'est vrai.
Non.
Si.
Non, je
la dernière fois, il y en avait un à votre place, il vous a dit je viens, il vous a dit non mais là, non, c'est ma place, je veux retrouver ma place. C'est
il
marrant
dit
alors.
Tout,
il vient là, non mais il dit tout, il y a son petit café.
C'est ouais, offert par Adil.
Exactement, toujours,
c'est vrai, Adil est modeste, mais je nous offre les invités, cafés, moi. Nous offre les cafés.
L'hospitalité.
À la machine.
Donc voilà, non mais je vous taquine qui a bien chaque
fois. Je sais Adil.
Bonjour maître, comment ça va?
Bonjour, ça va.
Tout va bien?
À part le temps qui est plus vieux, mais tout va bien.
Je sais que vous êtes triste, vous avez perdu votre portable.
Ouais, il est décédé, ouais. Je tiendrai au courant les auditeurs, la date de l'enterrement de mon téléphone portable.
Il a morflé.
Bah oui, c'est la pluie. Hein.
Ah là là. Je vous ai vu arriver, vous tiriez la tête, là, vous aviez une mine.
C'est marrivé il y a 10 minutes à peine.
Ouais, je sais, je comprends. Bah, mais mon portable aussi.
Choc. Je suis choqué.
Je sais. Oui, je sais. Bon, Ménad Ochenir, bonjour. Bonsoir, ancien élu de Rosny-sous-Bois, comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Vous, c'est l'homme du numérique.
Absolument.
Ouais. Ah. On a tout ici hein, sur le plateau. Hein.
Complètement. On peut monter une start-up.
Ouais.
Je pense que ça peut bien marcher.
L'argent est là. Le juridique est là. Et puis voilà.
Le patron.
Comme je dis, les meilleures start-up.
Bon, voyons voir si vous êtes toujours inspiré. Allez, est-ce que cette pénurie de grève, justement, la CGT reconduit, chers amis, la grève, ça y est, hein, coup de coucou, elle ne veut pas lâcher le morceau. La CFDT, ça y est, c'est fini, ça y est, elle a levé, évidemment, la grève. Mais en même temps, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce n'est pas deux France qui se divisent, deux France qui se fracturent, la fracture qui sépare, qui éclate même d'ailleurs le pays? Rafik.
Oui, tout à fait. Moi, je confirme, il y a 50% des Français qui approuvent les grèves et 50% qui désapprouvent. Donc, je pense que la France est vraiment divisée. Aujourd'hui, ça crée quand même une fracture parce que, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement a pris beaucoup de temps pour réagir. Il voyait quelques lampes s'allumer, on va dire, dès le départ et qu'il n'a pas réagi à temps. Donc, aujourd'hui, on a pris du temps pour mettre, pour réquisitionner des raffineries, pour mettre des stations, à des professions prioritaires. Donc je me dis quand même il y a des pour, il y a des contre. Ouais. Après il y a une solidarité qui s'est créée et ça je le salue parce qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs qui appelaient Beurre FM en l'occurrence, qui disaient sur les réseaux sociaux aussi qu'il y avait telle station il y a de l'essence, dans l'autre station il y en a pas. Ouais. Donc je dirais que dans le
on nous a même donné des plans ici, vous le savez ça?
Tout à fait.
Donc on nous a donné grâce à une auditrice justement, vous savez quoi, j'ai pris l'application là mais vous régulez, mais c'est vrai, Gasoil Now.
Très bien.
Grâce à une auditrice. Hein.
Très bien. Donc je me dis que quand même c'est une crise qu'on vit, mais ça crée quand même une solidarité entre les citoyens. Et c'est très très bien.
Maître David Libeskind, alors vous en pensez quoi justement vous?
Alors effectivement, il y a une fracture, mais j'ai pas la même analyse. Il y a plutôt la fracture des nantis, donc du PDG Total qui augmente de 52% sa rémunération.
Vous savez que vous allez venir sur ce terrain.
Non, non, mais il faut... Alors voilà, quelles sont les causes de la grève? 52%, le PDG Total, ça choque personne qu'il augmente 52% de sa rémunération.
C'est énorme, 52%.
Voilà. Ce qu'il faut savoir,
c'est pas mal. En tout cas, c'est pas mal.
Il y a eu un accord, mais alors faut bien préciser. En fait, il y a eu un accord au niveau du groupe qui a signé la CFDT et la CGC pour mettre fin à la grève. Tout mais elle n'est pas du tout concernée. C'est au niveau du groupe. Alors que Total Energy, qui est évidemment la filiale qui s'occupe de gérer l'essence, est toujours en grève. Et la CGT est majoritaire. Donc, elle est majoritaire. Parce que l'accord qu'a signé la CFDT et la CGC, ils sont majoritaires en termes de représentativité à 56% dans le groupe.
Cela,
Là, Total Energy, c'est une filiale du groupe. Et là, dans cette filiale, la CGT est majoritaire. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Parce que faut bien expliquer aux auditeurs ce qu'ils ont obtenu, ce qu'a obtenu la CFDT, la CGC. Elle a obtenu des miettes. Alors 5% d'augmentation des salaires, alors que le PDG s'est augmenté à 52%.
L'inflation, elle est 2%, 6%, ils ont obtenu 5%, c'est déjà pas mal.
Non, 5%, c'est déjà pas mal. C'est ton avis. Oui. 2% pour compenser l'inflation. Qu'est-ce que propose la CGT? Parce que, avant d'en parler, j'ai regardé la revendication de la CGT. Il propose 10% d'augmentation du salaire. Et je crois que l'inflation soit également compensée. Donc, 10% de l'augmentation des salaires. Le PDG, je rappelle, il s'est augmenté de 52% de son salaire. Je pense pas que c'est des grosses revendications et je pense pas que ça va faire couler le groupe Total. Parce qu'on nous a sorti un chiffre que la rémunération des grévistes sera de 5000 euros, ce qui est complètement inexact. C'est la rémunération moyenne.
Mais une fois qu'on a dit ça, maître, pardonnez-moi, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on en parle.
Oui.
Il l'a dit, Rafik Temgari, on a une France qui est divisée 50-50. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui soutiennent les grévistes, on est d'accord, mais il y a ceux aussi qui considèrent, parmi les automobilistes, qu'on les prend en otage.
Non,
on
ça...
dit quoi? Est-ce
oui,
que
mais...
la CGT prend en otage justement
non,
les automobilistes?
Mais
est-ce
fait...
qu'elle prend en otage la population française?
Non, mais en 36, s'il n'y avait pas eu des grèves, s'il n'y avait pas eu tout ça...
Le contexte économique, le contexte politique, le contexte...
C'est le principe.
Pardonnez-moi, il a droit à une double cachette. Le contexte politique n'était pas le même, mon cher maître...
Toutes les revendications... Mais toutes les avancées sociales ont eu lieu grâce à des manifestations.
Oui,
le droit de grève est quand même un droit.
Alors, on n'a pas écouté.
Après, je comprends les Français parce qu'ils ne peuvent pas aller bosser, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est le principe. On a accepté ce principe du droit de grève.
Bien sûr, le droit de grève et puis un droit constitutionnel.
Mais là, Douchenir.
Personne qui remet en question le droit de grève. Est-ce qu'on a bien affaire à une grève? Excusez-moi, parce que commencer à bloquer les raffineries avant même de commencer les négos. Moi, on parlait start-up tout à l'heure, ça ressemble à une levée de fonds. Hein. Je ne vais pas dire extorsion de fonds, mais ça ressemble à une levée de fonds quand même. Heureusement que ces gens-là ne gèrent pas la guerre en Ukraine, parce qu'on commencerait par atomiser et après on discute. Voilà, donc pardon, mais ce n'est pas tellement un mouvement de grève au sens.
Mais si vous êtes d'accord, vous le direz. Attendez, laissez-moi juste finir sa pensée. Vous allez répondre,
La CGT, et ça a été très bien dit tout à l'heure, et bravo, il y a un agenda politique à la CGT. Il faut montrer les muscles, les dents, le couteau entre les dents, etc. Bravo au chef de la CGT. Mais maintenant, c'est bon. Faut arrêter les bêtises.
Surtout que quand...
Le transport scolaire, les ambulances... Mettons de côté les
Mais quand vous dites qu'il y a un agenda politique, c'est quoi cet agenda politique? Vous faites référence aux élections.
Absolument, aux élections internes. Plus
oui, parce que M. Martinez quitte
absolument,
hein, le CGT.
Absolument, et en l'occurrence, ça a été très bien dit tout à l'heure, et pour le coup, c'est exactement la ligne que je comptais défendre ce soir. C'est-à-dire que...
Il l'a dit, Michel Fauque, des luttes intestines.
On est aussi pris dans cette espèce de guerre de succession, et finalement, le consommateur, le français moyen, c'est la variable d'ajustement d'un agenda politique qui n'a rien à voir avec nous.
Alors, moi, je peux rajouter un point.
Alors, Rafik, et ensuite...
Un tout petit point. La grève, certes, est un droit constitutionnel, mais l'image que la France subit à cause de ces grèves... Alors, aujourd'hui, dans le commerce international, l'image de la France qui rayonnait à certains moments au monde, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Quand on parle, dit de la France, je veux plus venir investir en France parce que c'est un pays de grévistes, que ce soit l'aérien, que ce soit les transports et actuellement dans le carburant. Donc, c'est là aussi, c'est carton jaune au syndicat. Donc, l'auditrice, elle disait, on a que la grève. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des négociations qui se mettent. Bretagne. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne connais pas le taux, mais très peu de Français sont syndiqués. Donc peut-être qu'il faut se syndiquer pour essayer d'avoir...
10% je crois.
Peut-être qu'il c'est mieux de se faire représenter. Mais la grève n'est pas bonne du tout pour le pays. C'est au contraire, elle handicape le pays. Elle, certes, c'est un droit constitutionnel, il faudrait essayer de négocier avant tout.
Alors maintenant, attendez, il faut quand même qu'on laisse Maître David Libeski.
Alors premier point, peut-être tu ignores en fait les règles de la négociation sociale en entreprise. Moi, je suis juriste en droit du travail, donc je les connais parfaitement. Ce qu'il faut te dire, c'est que chaque année, en fait, il y a une négociation dans toutes les entreprises, hein, de plus de 20 salariés. Chaque année, je t'ai pas coupé, merci, chaque année. Donc en fin de compte, Total avait déjà négocié en fin de compte avec les syndicats, elle avait fait une négociation factice, disons, avant que la CGT déclenche ce mouvement. C'est un premier point. Un deuxième point, tu parles d'agenda politique. Là encore, c'est ignorer en fait comment fonctionne le syndicalisme, notamment la CGT. C'est là, on est dans la branche énergie. C'est la CGT énergie.
Il y a bien un agenda.
Non, mais laissez-moi finir. C'est CGT, t'as plusieurs, en fait, les syndicats sont organisés par l'union départementale ou par secteur d'activité. Là, en l'occurrence, c'est pas Monsieur Martinez, en fait, qui a demandé, en fait, qu'il y ait une grève. C'est la CGT Énergie. Donc, je ne vois aucun rapport avec l'agenda politique.
Maître, vous permettrez quand même qu'il y ait un agenda électoral. Début décembre, il y a des élections.
Oui,
si,
mais à la CGT.
Martinez, il quitte son poste, donc il y a forcément des luttes internes.
Mais non, oui.
Bah pourquoi non?
À chaque fois qu'il y a une élection, il y a une lutte interne.
Bah forcément, ça se tiraille à l'intérieur,
Il a même confirmé.
Le secteur d'activité CGT Énergie ne.
Mais ça me semble logique même en même temps. C'est normal.
C'est pas le syndicat massif de branche au sein de la CGT. En fait, après.
Oui, mais il profite de cette actualité pour évidemment se saisir.
On est d'accord que Total a fait des milliards de bénéfices. On est d'accord que
la CGT était en perte de vitesse.
Non, elle est deuxième, je crois qu'au niveau national.
Elle est deuxième, après la CFDT.
Oui, après la CFDT. Donc elle est
donc
pas.
Elle a perdu.
Non, mais bon, c'est pas du tout une perte de vitesse. Mais bon, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des salaires à Total. Je crois que ça, c'est pas contestable. Donc, si à chaque fois on fait une grève, on dit que c'est pour une récupération politique, on s'en sort pas. Mais non, c'est pas du tout le. D'ailleurs, ils appellent à une grève interprofessionnelle pour mardi 18 octobre. Donc, c'est bien la preuve que, de toute façon, qu'il y a pas une récupération spéciale par la CGT qui, par le passé, ça je suis d'accord, a beaucoup faibli au niveau des négociations.
La grève générale de mardi. La grève générale de mardi, effectivement, ça va être un mouvement de grève, j'allais dire, plus traditionnel pour, effectivement, aller revendiquer davantage de pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires. On est dans la pure tradition française de la grève. Et c'est très bien aussi, je pense, Rafik, qu'il y ait des grèves en France. Et aussi un peu vis-à-vis, message vis-à-vis du monde économique international. Parce que c'est dire aussi qu'on a un dialogue social et un droit du travail qui n'est pas en carton-pâte, contrairement à certains pays. Donc ça peut être aussi un petit message. Et moi, personnellement, ça ne me choque pas tant que ça. En revanche, oui, la grève de mardi, mais moi je reste sur ce qui s'est passé dans les raffineries, ce qui va profiter vraisemblablement qu'aux quelques salariés de ces raffineries. Je vous le dis, c'est simplement une opération.
La grève de mardi, à quoi peut-on s'attendre? Puisque vous faites référence à la grève de mardi. Tour de table, à quoi peut-on s'attendre justement à cette grève de mardi? Une grève générale, ça va donner le ton un peu?
Après, la grève générale, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné vraiment en France. À chaque fois, il y a des appels à la grève générale 95, et ça ne fonctionne pas. Après, moi, évidemment, la grève de mardi, c'est une grève interprofessionnelle. Il y a qui sera dans la rue? Il y aura les enseignants, il y aura les lycéens.
Les cheminots,
les catégories, en fait, professionnelles classiques. Ce qui me gêne, c'est que le secteur privé ne sera pas dans la rue. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus difficile de faire grève. Après, la grève de mardi se justifie parce que on est là à débattre, mais n'oubliez pas qu'il y a l'inflation qui monte. Hein, on est à... pour les produits de première nécessité, c'est 9%, autrement c'est 6% hein, pour l'inflation générale. Donc il y a vraiment en France un gros problème de salaire. Donc je veux dire cette grève interprofessionnelle, je pense se justifier, et c'est peut-être, et les syndicats, ils ont raison en fait d'appeler à la grève mardi, parce que c'est peut-être le moment de réagir pour qu'il y ait des augmentations de salaire.
En bloquant les raffineries, on va pas faire diminuer l'inflation. En bloquant les raffineries, en empêchant les gens d'aller travailler, déposer les enfants à l'école, de se faire les transports médicaux, de se faire le ramassage scolaire, ça ne fera pas.
Non, mais ça, c'est le discours classique à chaque fois qu'il y a une grève. Hein,
non, mais je vous le dis.
Une grève, c'est fait pour gêner. Bien sûr. C'est fait pour gêner. Hein, je rappelle.
Pour gêner qui?
C'est pas simplement manifester. Hein.
Pardon, mais on va. Moi, j'aimerais qu'on se projette des fois un peu. ça gêne les travailleurs que la CGT dit défendre. Taper les gens qu'on dit défendre, c'est bizarre comme comportement.
Mais non, mais ça. toujours non, non, été comme ça.
Moi, je me suis toujours posé une question, peut-être que vous pouvez me répondre d'ailleurs, puisque vous semblez bien connaître le dialogue social et ce monde-là, et le monde syndical. Le litre, aujourd'hui, il a dépassé largement les 2 euros un peu partout.
Largement.
Pourquoi, puisque c'est les méchants actionnaires qui ont voté l'augmentation du salaire du patron, est-ce que dans les stations-service, on ne ferait pas une petite manipulation qui consiste à passer le litre d'essence à 10 centimes pour faire du bien au portefeuille de tout le monde, là, gain de pouvoir d'achat instantané, et puis ça va taper directement dans les recettes, donc l'argent, donc ce qui a vocation à aller dans la poche des actionnaires. Expliquez-moi, maître, comment ça se fait que ce genre de grève plus créative n'a jamais lieu.
Non mais, alors bon, après, c'est pas...
Maître David Lebesquide, alors vous dites
ça,
quoi?
Ça me semble... peu porté d'intérêt. Hein.
Ah bon, bah voilà, ouais, 10 centimes
non,
le litre.
Voilà, David Lebesquide,
c'est toi qui en fait décide en fin de compte qu'il y a des méchants actionnaires. Moi, j'ai jamais dit que les actionnaires étaient méchants.
Écoutez, non, c'est la CGT.
On parle du salaire du PDG.
Ouais, mais par contre, ça choque pas en fait que les dirigeants quand même s'enrichissent depuis la crise Covid, qu'ils augmentent leur salaire. Que les actionnaires.
On parle jamais quand les PDG diminuent leur salaire. Ça, on n'en parle jamais. Alors, c'était le cas pour Total.
C'est une question de justice. C'est une question de justice sociale dans les entreprises et au sein de la France. Qu'il y ait un tel écart, en fait, d'augmentation. Moi, je suis désolé. En dehors de toute idéologie politique, de toute option qu'on pourrait avoir, c'est un problème de justice. Comment voulez-vous, en fait, que les salariés réagissent quand ils voient leur PDG augmenter leur salaire de 50%.
Quand ils l'ont diminué, est-ce que vous en avez parlé?
Alors que pour la plupart.
David, la question. Ça s'est déjà passé pour Total, c'est une question de justice en fait.
Mais justice. C'est une question de justice. C'est même pas une question d'économie. Est-ce qu'on doit bloquer l'économie?
On n'est pas au Corée du Nord. Là, on est en France. Donc, c'est une liberté de marché.
Je veux dire, les Français.
Les actionnaires ont le droit de mettre les salaires.
D'ailleurs, les auditeurs qu'on a écoutés, la plupart soutiennent le mouvement de grève.
Bien sûr.
Pourtant, ils ont des désagréments.
Heureusement, ils ont des voitures, ils travaillent,
et donc ça les choque pas. Mais pourquoi ils le soutiennent? Parce que quand tu vois une telle injustice, tu dis mais où va-t-on?
Alors c'est vrai que maître David Lebesquide, effectivement, je lui accorde, j'opine comme disait un certain. Et c'est vrai que depuis cette semaine, l'ensemble des auditeurs, beaucoup d'auditeurs ont appelé, et dans l'ensemble, 90%. Soutiennent évidemment les grévistes pour une raison, c'est qu'il y a une injustice dans ce pays.
Bien sûr.
Voilà. On parle d'une injustice, effectivement.
Je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui, ça dépend de vos auditeurs. Adil, demain, vous allez aller au cœur de la défense, où vous allez avoir des cadres sup et qu'eux, ils n'ont pas du tout de soucis.
Il y a des cadres parmi les auditeurs.
Ils ont très peu.
Je ne dis pas le contraire. Il y a des cadres.
J'ai pas dit que. C'est pas ce que je dis.
Je dis que demain.
Non, pas du tout. Il ne faut pas déformer mes dires. J'ai dit demain, on part. On voit à la défense dans un centre économique où on voit qu'il y a énormément de cadres et on va leur poser la question s'ils soutiennent la grève ou pas. Bah je peux dire que 90% ils sont contre la grève.
Même sujet, messieurs. Mélenchon, il lance dimanche prochain la marche contre la vie chère. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'on peut s'attendre à, effectivement? Non, mais attendez. Je pose la question parce que pour Jean-Luc Mélenchon, ça va lui permettre jeudi de savoir s'il pèse. S'il continue de peser justement politiquement, autour de ta ménade au chénir.
Jean-Luc Mélenchon veut continuer d'exister sur la scène politique, il organise ça, je veux dire, c'est son droit. Et oui, les prix augmentent, oui, il faut réagir, oui, il faut montrer une réprobation. Ça sera un bon stress test pour Jean-Luc Mélenchon, de voir s'il pèse encore dans le débat politique et démocratique français.
Il va y avoir du monde quand on voit là toute la grogne qui s'installe.
Et tu sais, entre ceux qui grognent et ceux qui descendent dans la rue, il y a une sacrée différence, de manière générale. Moi, je regarderai ça comme vous avec beaucoup d'attention, mais entre nous, je ne m'attends pas à un raz-de-marée populaire.
Maître David Lebesquide, vous dites quoi alors, vous?
Moi, je pense qu'il y aura du monde du fait de la grogne sociale.
La colère sociale, notamment.
La colère sociale. Alors après, bon, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est organisé par un parti politique. Donc, moi, j'irai à cette manifestation, non pas pour soutenir la NUPES, parce que je rappelle que les députés se sont augmentés de 250 euros également, d'accord.
Exact.
Alors, pour info, il a fait toutes les marches.
Non, je ne fais pas toutes les marches, mais après, j'irai soutenir. Parce
N'oublions pas que Maître David Lebesquide était quand même l'avocat des Gilets jaunes.
Voilà, c'est une marche, en fait, pour le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires. Donc, c'est une marche que je soutiens, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, que je soutiens la NUPES. Mais je pense qu'il va avoir du monde. Il va avoir du monde parce que la France insoumise, quoi qu'on dise, ils arrivent à mobiliser. Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon...
Détourné, oui.
Non, Jean-Luc Mélenchon... avait fait, je crois qu'il avait fait, alors c'est la présidentielle, hein, entendons-nous bien, mais il y avait eu 100 000 personnes quand même. Et donc je pense que du fait de la révolte, la grande sociale, ça va mobiliser. Donc, mais on verra bien. C'est un test pour Mélenchon, je crois pas, parce qu'on est encore loin des prochaines échéances électorales.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Rafik Temgari?
Alors, il y a Clémentine Autain qui avait dit ce qu'on n'obtiendrait pas par les urnes, on va l'obtenir par la rue. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une image pour essayer d'avoir une grande sociale, essayer d'avoir un embrassement, alors que c'est pas du tout le but des grèves. Je veux dire, si on sort pour montrer son mécontentement, c'est pas pour profiter qu'un parti politique s'accapare cette cause-là. Et je pense que là aussi, encore une fois, LFI et Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est encore une fois tirer la couverture de son côté et surtout faire oublier un petit peu les histoires.
Vous savez ce qu'il dit Adrien englué dans l'affaire, pardonnez-moi, de l'affaire Quatennens. Jean-Luc Mélenchon, il a quand même dit un certain nombre de choses. Ça, beaucoup pensent que, espérer, hein, que ce sera une démonstration de force.
Bah, la force, c'est selon le nombre de personnes qui vont participer à cette marche-là. Donc, on le saura. La dernière marche qui a été faite, ça fait 10 jours. Il n'y a eu pas autant de personnes.
Oui,
donc
on avait la manif.
La manif, donc ça n'a pas vraiment
pris. Contre la réforme des retraites. Exactement.
Donc, je me dis qu'aujourd'hui, vu les conditions actuelles, les personnes partent plutôt chercher du gasoil que de venir jusqu'à Paris et essayer de
manifester. Alors là, détrompe-toi parce que, je le sais, la France Insoumise est très organisée. Elle fait venir des quarts de province, ils sont très organisés.
Ils arriveront à faire le plein.
Donc ils y arriveront, mais je pense qu'il y aura du monde quand même. Du fait des circonstances de cette grogne sociale. Après, s'il n'y avait pas cette grogne sociale, effectivement, je serais un peu plus prudent.
Ils sont portés par notamment les grévistes de Total.
Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait toujours maintenir le dialogue social aussi.
Il faut qu'il existe. Le gouvernement ne fait pas de dialogue social.
Il y a quand même un calendrier.
Attention à ne pas mélanger tous les sujets. Parce que, excusez-moi, Adil, là, ça fait une espèce de tchouk-tchouka, cette histoire. Non, mais vraiment, la marche contre la vie chère, effectivement, c'est une chose, on peut naturellement là, tous le constater, c'est de plus en plus cher. Et le mouvement de grève, très spécifique à la CGT et quelque part. Peut-être un petit peu moins, si le mot est un peu fort, légitime, dans la mesure où le dialogue social de la CGT dans le contexte de Total a très bien avancé avec la signature de l'accord. Donc là aussi, attention à ne pas embrouiller les Français sur le but de ces deux événements.
C'est le même thème, c'est l'augmentation des salaires.
Ils font grève pour demander l'augmentation
de leur salaire. Et là, la marche de M. Mélenchon, c'est l'augmentation des salaires.
Contre la vie chère aussi.
Je pense que c'était programmé aussi l'ensemble des entreprises. Moi, je parle pour le privé, mais très souvent, les négociations se font en fin d'année. Donc, c'est prévu qu'il y ait un calendrier pour qu'on puisse augmenter les salaires. Là, c'est aussi relatif au taux d'inflation, mais très souvent, c'est programmé. Et que
il y a des négociations annuelles obligatoires.
Exactement. Donc, je pense que c'était vraiment prévu.
Est-ce que vous la captez, cette colère? Vous, depuis tout à l'heure, on parle de grogne sociale. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que, évidemment, il y a une véritable grogne sociale qui s'installe dans notre pays?
Pour moi, la colère la plus dangereuse, Adil, c'est la colère silencieuse. Parce que les gens qui gueulent, finalement, il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux, ou allumer la télé, ou aller en voir. Il y en aura un peu moins qui vont descendre dans la rue, comme je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui disent rien. Ceux qui disent rien et qui subissent. Et cela, de manière générale, ça se ressent toujours à un moment ou à un autre, ça ressort, et en général dans les urnes. On l'a vu aux dernières présidentielles, où on a eu quelques, je ne vais pas dire des sueurs froides, mais en tout cas, quelques craintes. Et moi, j'ai peur que l'attitude de la CGT à sortir comme ça, tout de suite, les armes de destruction massive, avant même d'arriver à un dialogue normal, à établir un dialogue normal, ne crée... devienne un mode d'opérer, que ça devienne vraiment leur façon de faire désormais, parce que visiblement ça a marché un peu.
C'est une tradition française, je te signale.
La contestation, c'est une tradition française.
C'est très bien.
C'est dans la culture, des traditions
qui convient de perpétuer. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Mais
râler.
La grève doit succéder.
Allez, mais vous parlez de l'extérieur, pardonnez-moi, Mélade. Mais à l'extérieur, souvent les autres pays disent que la France, c'est des râleurs. Si on, autrement, partout où j'ai fait, je vous jure, j'ai bourlingué. Et là où je passe, on me dit, allez, Français, c'est des râleurs.
Si on n'avait pas été râleurs, il n'y aurait plus eu la Révolution française de 1789. Et il n'y aurait pas eu tout ce
monde. C'est assez ancien, là. Il faudrait que ça change un peu.
Laissons finir, Ménade, s'il vous plaît. Je fais un tour de table.
J'avais fini, mais effectivement, râler, ça nous a permis d'avoir un droit du travail qui est celui qu'on a aujourd'hui, mais qu'il s'agit de défendre. Mais défendre, c'est pas défendre n'importe comment. Et je pense que ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est contre-productif.
Maître David Libesque, attendez, j'ai ma question. Dimanche, les Gilets jaunes, ils seront présents?
Bien sûr, je pense qu'il y aura une...
M'a-t-on dit, certaines informations, qu'il y aura aussi les Black Blocs?
Ah oui, je confirme, ouais. C'est des informations que je confirme.
Oh là 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 là. Wow.
En fait,
ça va être chaud.
Non, mais je confirme.
Oh là 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 là.
Alors,
quelle grève doit-on s'attendre?
Si tu veux, le 16 octobre, ça va être un premier mai bis. C'est-à-dire le premier mai, généralement, tu as des black box, tu as beaucoup de contestataires, tu as des anarchistes, etc. C'est ce qui va se passer, en fait.
Rappelez-nous le 1er mai pour nos auditeurs.
Voilà. C'est ce qui va.
Rappelez le 1er mai chaque mai.
La fête du travail, oui.
Voilà, exactement. Oui, il faut le dire. Pour nos auditeurs, pour qu'on recontextualise.
Oui. En fait, la fête du travail chaque année, alors en dehors évidemment des militants syndicaux et puis de certains syndicaux, c'est un rendez-vous annuel. Voilà. Hein, le 1er mai, fête du travail, fête qui vient des États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bah, il y a toujours, en fait, en plus des militants syndicaux, il y a les black blocs. Il y a et puis il y a les anarchistes, il y a tous les contestataires,
tous ceux qui veulent.
Et donc le 16 octobre, d'après les informations que j'ai, de toute façon,
j'ai reçu ici Thierry Vincent, vous savez quoi, qui a écrit un livre justement sur les black blocs,
et qui viennent d'Europe, les black blocs, pas seulement les black blocs français.
Pardon,
pas seulement les black blocs de France.
Ouais. Ah aussi, il y a d'autres black blocs
d'Europe, ouais. Les Allemands, les Hollandais.
Graphic.
Je pense que tout à l'heure j'ai écouté une petite expression qui m'a beaucoup plu. C'était l'espoir romantique d'un embrassement de la société, sauf que le romantisme a un coût, c'est la galère pour tous. Et je trouve que c'est tout à fait vrai, parce que je pense que c'est bien de protester, c'est bien de demander, mais après la galère elle est vraiment pour tout le monde, pour ceux qui protestent, mais aussi pour ceux qui protestent pas. Donc il faudrait peut-être penser aussi aux personnes qui n'ont pas envie de ces grèves-là et que leur vie continue.
Mais avec toi, il n'y aurait pas de droit de grève, alors.
Non, c'est pas ce que je dis. C'est toujours de l'extrême à l'extrême. Mais qu'aujourd'hui, il y a quand même la moitié des Français qui ne veulent plus de ces grèves-là, qui veulent des négociations, un dialogue social, qui veulent trouver des solutions, mais pas que en mobilisant tout ce monde-là, en bloquant des roues, en mettant en otage pas mal de personnes. Quand on voit que les infirmiers libéraux ne pouvaient pas travailler au départ, donc c'était après qu'ils ont pris cette décision là de réquisitionner quelques stations d'essence, le ramassage scolaire,
on est face à un gouvernement, face à un pouvoir politique en fait qui ne pratique pas le dialogue social. Donc que font les salariés, que font les centrales syndicales? Elles sont obligées en fait de manifester dans la rue. Le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a tous vu, qu'on a tous connu, s'il y a autant de gens qui se sont révoltés, c'est parce qu'en France, il n'y a plus de dialogue depuis Emmanuel Macron. Il n'y a plus un dialogue social comme il existait sous le temps de Chirac, un petit peu sous le temps de Sarkozy, même si c'était un peu factice.
Ce que j'allais vous dire, à chaque fois qu'il y avait un président, c'était
sous le temps de Mitterrand, parce que Emmanuel Macron,
une fois qu'ils sont partis,
Emmanuel Macron n'est pas un financier, n'est pas un politique. Les autres présidents de la République pratiquaient le dialogue social, et là, on n'a pas de dialogue social. La preuve, il a fait son CNR pour se moquer des gens. Il veut prendre les décisions tout seul.
Conseil de la refondation. Messieurs, nous devons avancer, les 19h12 précisément, pour celles et ceux qui viennent de nous suivre, sachez-le, les informer. Vous pouvez aussi, vous, si vous souhaitez interpeller un débatteur influenceur, c'est au 01 53 48 3000. Nous allons parler de l'inflation. Vous savez que l'inflation, elle ralentit légèrement en septembre à 5-6% sur un an. Et en même temps, parce qu'on aime dire ça nous aussi, les prix flambent. Des produits alimentaires continuent de flamber. C'est impressionnant, chers amis, parce que le chariot de course, eh bien, ça fait mal. Ménade, c'est vrai.
Si vous ajoutez à ça le prix de l'essence, j'en mets une couche, ça risque pas de s'arranger.
On vous écoute sur ce sujet.
On l'a vu, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la France...
Un bond de 8% sur...
Mais la France, alors si on la compare aux autres pays de l'Union européenne, par exemple, pour parler que de nos voisins, est un des pays qui s'en sort, j'irais dire, le moins mal. En termes d'impact de l'inflation. Et puis, là où on peut se réjouir d'habiter ce pays, c'est qu'on a quand même des mesures, on a quand même quelques, n'en déplaise à certains de nos interlocuteurs, des mesures compensatoires qui viennent aider les Français, alors même si c'est jamais assez,
quoi qu'il en coûte.
On a eu le quoi qu'il en coûte, qui a évité beaucoup de défaillances, par exemple, qui a permis à des gens de garder leur boulot. Et naturellement, effectivement, il s'agit de contrer du mieux cette inflation. Moi, ce que je crains un petit peu avec l'hiver, et puis l'hiver un peu rude qui s'annonce, hein, que ce soit sur le plan climatique ou géopolitique, c'est qu'on arrive aussi à quelques petits soucis en termes d'approvisionnement de matières premières, et plus uniquement de l'énergie. Je pense par exemple au blé ou autre. Donc, je crois qu'on n'a pas fini de voir les prix augmenter.
C'est vrai.
Tendances,
L'INSEE, elle le dit. Hein.
C'est l'INSEE, naturellement, qui
le dit.
Mais à nous, parce qu'on le voit venir, et quand je dis nous, c'est aussi le gouvernement, mais aussi les Français, les entreprises et le monde économique, parce qu'il n'y a pas de raison de tout attendre du gouvernement, de prendre des dispositions pour faire en sorte de pouvoir atterrir correctement et passer l'hiver, et puis on verra ce que 2023 nous réserve.
Je vais marquer la pause, vous savez quoi ? Je vais vous donner quelques éléments, quelques chiffres. 22% de hausse sur le paquet de chips, 23% sur le riz, le steak haché, 27% sur le paquet de coquillettes. Ça, c'est toujours les pâtes. Bref, on est même passé la baguette. Hein. La baguette a augmenté.
Elle risque d'augmenter encore plus.
Absolument. Je vous redonne la parole justement juste après la pub. Ne bougez surtout pas, restez avec nous, et même y compris vous. Le ticket de caisse fait mal. Hein. À tout de suite.
Ne lâche rien.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, c'est aussi avec Rafik Temgari, élu à Rueil, ma maison. C'est également aussi avec notre cher maître David Limeskid, mais également aussi avec l'ancien élu de Rony Soubois, qui est consultant numérique aujourd'hui. Il s'appelle donc Rafik Temgari. Ménade de chez...
C'est vrai qu'on se ressemble.
C'est ça parce qu'on est raccord sur les tenues.
Oui, c'est ça, vous êtes raccord.
C'est vrai.
Non, mais j'ai remarqué, les gens de la finance, tu sais ce qu'ils
font. C'est la tenue droite.
Non, c'est vrai.
Je ne savais pas que les gens de droite
David.
Avaient une tenue.
Clochette, il a droit à une clochette. Non, mais c'est vrai. Vous savez quoi, les gens de la finance, vous les verrez tout le temps, systématiquement, du lundi au jeudi, costume cravate, et le vendredi, à l'anglaise, on se lâche, à l'américaine plutôt, on se lâche, on vient en basket. C'est vrai ou pas, non? C'est vrai, hein?
Tout à fait. Je
mais c'est vrai, j'ai noté ça. Sans doute. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Ça, mais ça doit être les injonctions de leur parti.
Casual Friday. Ouais. C'est le vendredi cool.
Cool. Les amis, cool. Allez, on va parler. Vous savez quoi, il me reste quelques minutes. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ce hub Gazia en Turquie. Justement, en direction. Ah oui, j'avais quelqu'un. Rafik, il me dit, il y a quelqu'un.
D'Espagne.
Il est réalisateur de l'émission maintenant, yes. Rafik.
Il nous appelle d'Espagne, donc c'est pas mal.
Oui, oui. Comment ça va, cher ami, auditeur espagnol,
l'armée.
Il nous appelle de Valence. Oh là, qu'est-ce que ça fait plaisir.
Oui, muy bien la Francia.
Oui, comment est-ce
que si, bien, muy bien.
Muy bien.
Non, moi, menos ahora.
Menos. Allez, on vous écoute, on va pas faire tout le truc en espagnol.
Non, ma question est rapide.
Je vous écoute, mon cher l'armée.
Oui, ma question est rapide. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une explosion sociale en France, en sachant que à partir du 31, l'aide gouvernementale pour l'essence va arrêter, donc ça veut dire qu'il va y avoir 30 centimes de plus sur l'essence, et les autres aides gouvernementales vont arrêter aussi. Donc ça veut dire que tout va exploser, quoi.
Exactement.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura une explosion sociale derrière, ou pas? Parce que moi, personnellement, je suis convaincu.
Oui, alors question pertinente, je vous libère et on fait un tour de table en quelques secondes. Qu'est-ce que vous lui répondez, Rafik Temgari?
Alors, encore une fois, si on parle de l'aspect politique, il y a certains partis politiques qui souhaiteraient avoir cet embrasement social. Et c'est le but, un petit peu. Alors, je dirais qu'il faudrait faire appel à la sagesse et prioriser le dialogue social. Donc, parler avec l'ensemble autour d'une table.
Maître Limeskid.
Alors, moi, je suis d'accord pour privilégier le dialogue social, mais on sait très bien qu'avec Emmanuel Macron et son gouvernement, ça n'aura pas lieu. Voilà, tout de suite, en fait, faut indiquer, il y a quoi? Il y a 10 millions de Français ou 9 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc après, faut pas s'étonner si dans les prochains mois, voire l'année prochaine, il y aura un embrasement social, si ça continue.
Ménade.
Le coup de pouce de 30 centimes, virtuellement, on l'a déjà perdu avec les manœuvres de la CGT. Donc là, on n'a pas observé particulièrement globalement. Et je pense pas qu'il y aura une explosion sociale comme le redoute l'Arabie, puisqu'on a encore la chance d'avoir pas mal d'amortisseurs sociaux et qu'on n'est pas dans une tradition, contrairement à d'autres pays, de laisser les gens au bord de la route.
Voilà l'Arabie, j'espère qu'on vous aura répondu effectivement. Je voudrais juste en quelques secondes, s'il vous plaît. C'est dommage parce que là, on parle de géopolitique. Le hub gazier, avec la rencontre Poutine, mais également le président turc, c'est-à-dire le président Erdogan. Que retenir, évidemment, de cet enjeu qui est en train de se dessiner avec ce hub gazier? Alors, Ménad,
c'est les cartes de la géopolitique de cette région-là et puis d'une manière générale de toute l'Europe qui sont rebattues. Alors ensuite, ce hub gazier, moi, là aussi, je m'interroge un tout petit peu sur l'intérêt stratégique et géostratégique, puisque de toute façon, vendre du gaz à l'Europe qui passe par la Turquie ou qui passe par l'Ukraine, faut quelqu'un au bout pour l'acheter. Et pour pas faire très long, si Poutine veut un jour revendre du gaz à l'Europe, bah, il faut arrêter de s'en prendre à l'Ukraine. Voilà, pardon pour la simplicité du truc, mais.
Ouais. Là, moi, alors, maître.
Moi, je suis d'accord avec cette analyse. Bon, il essaye de contourner.
Une fois, vous êtes d'accord.
Il essaye de contourner un petit peu les sanctions économiques. Vous achèterez. L'Europe va acheter son gaz à la Turquie. Mais bon, je veux dire, c'est personne n'est dupe. Mais bon, c'est que, en fin de compte, parce que comme Poutine ne vend plus son gaz, évidemment, à l'Europe, il a une perte sèche. C'est aussi pour lui, parce que la Russie, malheureusement,
donc il passe par les Turcs.
Est en récession économique. Donc, il essaye de passer par la Turquie. Mais bon. L'Europe n'est pas dupe, voilà, ça marchera pas comme ça, puisque je sais pas, peut-être on va acheter le gaz à l'Algérie ou à d'autres pays, mais je pense
le Qatar.
Le Qatar, mais acheter le gaz à la Russie, c'est pour l'instant en tout cas c'est terminé.
C'est déjà le cas.
Alors moi, ce que je tiens à signaler, c'est que le président turc Tayyip Erdogan est quand même un président qui est relativement dans la médiation. Il essaye de régler entre la Russie.
Il est très impopulaire dans son pays. Hein.
Oui, oui, mais ça n'empêche qu'il défend énormément les intérêts de la Turquie. Aujourd'hui, il fait partie de l'OTAN, donc chose qui faut. Donc c'est là où il faudrait voir que c'est un bon et fin. Tacticien pour moi, parce qu'il il travaille sur les deux côtés. D'un côté, il défend l'Ukraine en disant je suis membre de l'OTAN, et d'un autre côté, il essaye de négocier avec Vladimir Poutine. C'est là où on voit un petit peu son système autoritaire, et c'est là où il faudrait un petit peu saluer cette diplomatie-là.
Merci à vous. Merci Ménad Ouchenir. À très bientôt. Ancien élu de Rosny-sous-Bois, mais également aussi consultant en numérique. Merci infiniment. Merci à David Lebesquida. À vendredi prochain.
À vendredi prochain.
Même chaise, même micro.
Ouais.
Même café.
Même café, non, quand même.
Bon, j'ai
non,
bien. J'ai, un autre quand même. Vous nous avez lâché. Ouais. Comment ?
Vous allez lui en servir un autre quand même.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Mais vous nous
avez lâché une info. Vous serez à la grève. À la marche, pardon, dimanche.
Oui, oui.
Et vous allez participer mardi à la grève ?
Non, mardi, non, j'ai des audiences, mais...
Bon, il a des audiences.
Voilà, mais ce qui est certain, c'est que voilà, j'y serai dimanche.
Merci à vous. Rafik Temgari.
Merci Adil.
Élu de Rueil-Malmaison.
Avec plaisir que je reviendrai.
Et à très vite, au plaisir, absolument.
Non, à bientôt.
Allez, merci à tous les auditeurs. Bilan Edman, c'est 20-21. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.
On ne lâche rien.
Et surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.